Bonjour et bienvenue à l'émission Voix de Service Magazine, 12 juillet 2018. Monique Kirouac à l'animation, bien entourée de Marie Lalande.
Bonjour Monique.
Bonjour Marie. Et d'Yvan Deslauriers.
Bonjour Monique.
Et on a Mathieu de l'autre côté de la fenêtre.
Non, Maurice.
Pardon, ouais. Mathieu, qu'est-ce que je dis?
Ça commence par M.
C'est ça, exactement. Excuse-moi Maurice. Ah là 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 là. Alors, chers collaborateurs, de quoi parle-t-on aujourd'hui, Marie?
Alors, dans un premier temps, je vais vous lire un éditorial.
Oh!
Très sérieux.
Oui.
Sur l'importance et le pouvoir de la lecture.
Oui. On n'en parlera jamais assez. Hein.
Je le répète et je me redis, mais ça
non,
me fait plaisir.
Non, il y a toujours un angle différent, oui. Et cet article est fort stimulant.
Tout à fait. Mm-hmm. Et dans la deuxième partie d'émission, je vous parlerai de quelque chose d'un peu plus sombre. C'est la réalité, la souffrance des enseignants du primaire et du secondaire. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université de l'UQAM à ce propos.
Tout à fait. Alors, Yvan, de ton côté?
Moi, dans mes deux interventions, je vais probablement aux deux bouts du spectre de l'activité physique. Je commence tout simplement.
Oui.
dans le vrai sens du terme. Et je m'en vais jusqu'à l'aventure.
Ben, en fait, tu commences par l'aventure, je crois, non? Et tu finis par le tout simplement.
On va discuter de ça dans la pause.
D'accord. Alors, de mon côté, je vais vous lire un article sur les Incas. En fait, c'était des pros de la chirurgie.
Ah bon?
Oui.
Alors, ah ouais?
Je n'en dis pas plus. Et bien sûr, c'est des chercheurs qui se sont intéressés à ça. Et d'un autre côté, je parle de jeûne. Alors, semble-t-il qu'on n'est pas obligé de faire des jeûnes drastiques, qu'il y aurait des mini-jeûnes qui nous font le plus grand bien, autant pour faire perdre du poids que pour améliorer notre santé.
Ah bon?
Alors voilà.
Ça t'attend pas, hein?
Chers auditeurs, restez à l'écoute, c'est parti. Alors Yvan, est-ce qu'on est prêt à franchir quelques kilomètres à travers le Québec?
Oui, c'est ça. Alors, c'est moi qui est dans l'erreur. Je pensais que je commençais par la simplicité, mais là, c'est pas si simple que ça.
Non,
Mais c'est un kilomètre à la fois, mais c'est beaucoup de kilomètres, c'est ça l'affaire. C'était c'est un article dans le Journal de Montréal de la semaine dernière, du 4 juillet, sous la plume de Véronique Champagne. Ça s'appelle Le Québec, un kilomètre à la fois. Samuel Lalande-Marcon, c'est-tu quelqu'un dans ta famille, Marie?
C'est quelqu'un que je ne connais pas, personnellement.
Alors, Samuel Lalande-Marcon, 32 ans, et David Désilet, 29 ans, feront la traversée du Québec de Montréal à Coudjouac.
Oui.
À vélo. Et en canot, en solo et en duo. Suivez-moi. Le premier coup de pédale s'est fait jeudi, la semaine dernière, le 5 juillet. Non, c'est vendredi, le 5 juillet, pardon. Lorsque son ancien collègue de classe, de baccalauréat en musique, l'a invité à se joindre à lui dans cette aventure, David Désilet a jonglé avec l'idée pendant quelques semaines. En fait, puis là, on va tout être dans cette situation-là, en fait, je me demandais comment j'allais pouvoir refuser poliment.
On a tous eu à faire ça à un moment donné.
On a tous eu à faire ça et on a tous à faire ça encore.
Mais peut-être pas pour une telle aventure.
On n'a pas cette orphelin-là, c'est très, très souvent.
Non.
Raconte le Montréalais de 29 ans. Le projet était très ambitieux, trop. Ma vie était très remplie, trop. Les fameuses barrières personnelles qu'on a tous. David venait pourtant de suivre avec envie l'expédition de canot Iqivuk. Je recommence. L'expédition de canot Iqivuk dans le nord du Québec. Sa feuille de route ne trahit pas non plus une propension à l'inertie. À 17 ans, il traversait l'Espagne à pied sur les chemins de Compostelle. Là, j'imagine les parents qui l'ont laissé partir à 17 ans.
Ou qui l'ont fait avec eux, peut-être.
Peut-être aussi, c'est vrai ça. C'est une bonne... Et dans la dernière décennie, il avait voyagé de par le monde, s'installant même quelques mois en Asie. « On doute toujours, » pense David, mais au lieu de figer, celui-ci et Samuel s'est outillé. des heures de lecture sur la cartographie, les rivières, etc. Une formation de sauvetage en eau vive, une autre sur la technique en eau vive, puis celle sur le secourisme en région éloignée, et même un cours en ligne sur la nordicité du Québec.
Alors, il était bien préparé, là. Mm-hmm.
Oui, pour un gars que ça ne tentait pas, là, il se préparait. Le plus difficile, c'est de prendre la décision, justement. Après, on ne revient plus en arrière et toute l'énergie se mobilise pour que ça fonctionne, nous dit David. Moi, quand j'ai de quoi en tête, je suis pogné avec ça. Je dois amener le projet à terme, témoigne Samuel. Ils s'en vont tous deux dans la même direction, franc nord, plus ou moins, jusqu'à Coudjouac. Mais autant leur approche que leur parcours sont à deux pôles opposés. Ils se rejoignent dans ce projet, métaphoriquement et physiquement, parce que Samuel part seul, il est parti seul la semaine dernière. Et je ne fais pas du cyclotourisme, non, 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 précise celui qui se définit d'abord comme un sportif d'aventure. Le Rosemontois a déjà traversé à vélo le Canada, 8329 km en 47 jours, et les États-Unis, 7255 km en 42 jours sur un terrain difficile, notamment à travers les rocheuses du Colorado et le désert du Nevada. Dans le cadre de la Trans-Taïga, le projet qu'ils attaquent, il attaquera 2000 km en 10 jours en vélo, soit une moyenne de 200 km par jour, jour après jour. Je vais vous faire un petit compte-rendu où est-ce qu'il est rendu tantôt.
Oui. C'est impressionnant.
Oui, n'est-ce pas? Hein?
Wow.
Je peux rouler 12...
J'ai mal aux jambes, ouais. Ça est fort.
Moi, j'aurais mal au derrière aussi. Hein? Je peux rouler 12, 13, 14 heures par jour, dit Samuel. Je ne fais que rouler. C'est cette simplicité, c'est le thème de mes interventions aujourd'hui.
Oui, oui.
C'est cette simplicité que je recherche. Vendredi dernier.
Jeudi, 25, c'est jeudi. C'était jeudi.
OK, merci beaucoup. Jeudi dernier, il est parti du Vieux-Montréal. Et il était censé s'arrêter à Mont-Laurier ce soir-là. Un petit parcours. Il cheminera comme ça en parfaite autonomie jusqu'à ce que la route s'arrête. Ce n'est qu'alors qu'il retrouvera son compagnon d'aventure et poursuivra sa route vers Coudjouac sur l'eau en canot. Cette deuxième étape comprend 580 km à franchir en 20 jours, dans une progression qui impliquera énormément de navigation et une bonne dose d'improvisation, alors que les deux amis devront gérer sur le terrain différentes surprises, notamment celles liées au niveau de l'eau de chaque tronçon. Il n'est plus question que de pédaler. C'est là qu'on se complète bien, dit David. Samuel a tendance à dire « go » puis à foncer, et moi je suis plus du genre à analyser la situation, à aller vérifier si le rapide est franchissable avant de s'y lancer, par exemple. Se pousser physiquement à ce point, comme j'ai tendance à le faire, serait dangereux à ce stade-ci de l'aventure, concède Samuel. Cette aventure, ni l'un ni l'autre ne l'aurait faite sans l'autre. Ils l'ont construite à leur image. Et les regarder aller donne l'impression qu'il y a autant d'aventures que d'aventuriers. Je crois que l'élan pour l'aventure est naturel. C'est en soi, pense Samuel. Dans mon cas, ça doit être pas mal enfoui en soi. Et celui-ci serait peut-être aujourd'hui plus fort que jamais, alors qu'on s'épuise et s'étourdit dans un quotidien trop branché au numérique. En aventure, on est hyper focus d'une façon très intense. Pour moi, ce ne sont pas tant les découvertes qui m'inspirent que cette exploration intérieure, confie Samuel. Plus secret, David parle d'essentiel parenthèse au quotidien avant de s'animer en partageant le plaisir qu'ils auront à raconter en images, en mots, et peut-être même en musique. Et là, je suis allé voir sur le blog de Samuel pour voir comment ça va son histoire. Le 6 juillet, il nous disait jour 1 complété avec 257 km au compteur. Malgré la chaleur et le dénivelé, les routes des Laurentides avancent vite et bien. 7 juillet, jour 2. Je peux dire que le 6 juillet, il ne faisait pas si chaud que ça, comparativement aux autres.
On avait perdu l'humidité en tous les cas.
7 juillet, jour 2, 14h13, c'est le temps que j'ai dû rouler pour compenser le fort vent de face et atteindre Val-d'Or à 23h15. 299,45 km au compteur. Ça, c'est la journée 2. La journée 3, je ne l'ai pas, mais la journée 4, repos forcé, mais apprécié à Matagami en attente de nouveaux pneus. Je reprends la route demain aux petites heures. 9 juillet, journée 5, j'ai roulé 261 km jusqu'à Rivière-Rupert, où je campe ce soir. Beaucoup de vent, de la pluie et des moustiques. Bref, je suis en Jamaisie. Jamaisie, c'est la région près de la baie James.
Mm-hmm.
Et le 10 juillet, jour 6, je tombe en amour avec ce magnifique territoire. Quelle lumière! 251 km roulés aujourd'hui. J'entame demain la route Trans-Taïga. Alors, je pourrais revenir la semaine prochaine avec d'autres, d'autres petits clins d'œil.
Dire où ils en sont.
Voilà.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, c'est à mon tour de vous lire un texte de Renaud Manuguera-Gagné qui a été publié le vendredi 15 juin 2018 pour le site Info Radio-Canada, la section Science.
Ben oui.
Alors,
non, c'est pour ça que le nom me disait quelque chose.
Oui, c'est ça. Alors, le titre, c'est « Les Incas, pros de la chirurgie du crâne ».
Du crâne.
Je ne vous avais pas dit ça. Hein?
Rien de moins.
Rien de moins. Alors, si vous deviez subir une chirurgie crânienne à une autre époque qu'aujourd'hui, votre meilleur choix, semble-t-il, serait au temps des Incas. Ouais. Des chercheurs ont démontré que le taux de survie de la procédure dans cet empire du 16e siècle dépassait celui en Occident jusqu'à la guerre civile américaine. Alors, la chirurgie à la tête est loin d'être simple, on s'en doute, et se lancer dans cette procédure sans avoir accès à toute la technologie moderne peut sembler insensé. Pourtant, une ancienne forme de chirurgie du crâne appelée trépanation a été une pratique millénaire et répandue. Il s'agit d'une opération au cours de laquelle le médecin soulève une partie du cuir chevelu, puis creuse un trou dans le crâne avant de refermer la plaie. Ne perds pas connaissance,
non,
Marie.
Non,
ça
non,
va
mais...
aller, ça va aller.
Non, non, mais beaucoup... elle connaît ça parce que j'ai déjà eu une trépanation.
Une trépanation? Ben, ah,
oui.
My God. Oui. Alors, beaucoup de patients en mouraient, mais il y avait assez de survivants pour que le traitement perdure. Des crânes avec des trous ont été trouvés, tant en Afrique qu'en Amérique et en Europe. Selon une nouvelle étude, les Incas étaient cependant ceux qui maîtrisaient le mieux la technique. Alors, les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue World Neurosurgery et montrent l'avance qu'avaient les pratiques médicales des civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud. Alors, pourquoi vouloir pratiquer un trou dans la paroi crânienne?
C'est ma question.
Alors, bien qu'il soit possible que la procédure ait été effectuée pour des raisons religieuses, plusieurs études ont montré son rôle en tant qu'acte médical. La trépanation était souvent pratiquée sur des personnes ayant subi un traumatisme crânien. Dans ces situations, l'enflure et l'accumulation de liquide dans la tête pouvait être mortel. Mm-hmm. Donc, pratiquer ces trous et retirer des fragments d'os aurait pu réduire la pression. Alors, on n'allait pas chercher le liquide, mais on enlevait des os qui, en fait, permettent une dilatation.
Oui.
Mm-hmm.
Il est aussi possible que cette technique ait servi de traitement contre les migraines ou les maladies mentales. Hippocrate, le père de la médecine en Grèce antique, la proposait même comme traitement contre l'épilepsie. La pratique a diminué pendant le Moyen Âge, mais l'intérêt en Occident est revenu pendant la Renaissance et le traitement est resté courant pour les blessures à la tête jusqu'au 18e siècle. Quand les hôpitaux ont commencé à apparaître dans les grandes villes, les conditions insalubres et les infections ont mis fin au traitement. Par contre, la procédure est restée comme mesure d'urgence sur des champs de bataille, comme pendant la guerre civile américaine.
Oui.
Alors, la trépanation était une pratique courante en Amérique du Sud, où les conditions géologiques favorables à la préservation d'ossements ont permis à une grande quantité de crânes de patients ayant subi l'intervention de se rendre jusqu'à nous. Les chercheurs de l'étude ont remarqué qu'un grand nombre de crânes retrouvés indiquaient aussi que les patients avaient remarquablement bien guéri. Un os dont le pourtour du trou était cassé net ou portait des traces d'outils indique que la personne est morte pendant ou tout de suite après la procédure. Toutefois, si l'os est lisse et arrondi, Cela indique qu'il y a eu guérison et que la personne a survécu plusieurs mois ou même des années après l'intervention. Pour confirmer l'efficacité de la procédure chez les Incas, les chercheurs ont comparé l'état de centaines de patients traités à travers les âges. C'est quand même incroyable oui. ce qu'on arrive à faire au niveau oui. de la recherche, non? Alors, les crânes datés entre le 4e et le 2e siècle avant notre ère indiquaient un taux de survie de seulement 40%. Celui-ci grimpait à 53% pour les crânes datés du 11e au 15e siècle. Et 200 ans plus tard, à l'apogée de l'Empire Inca, entre le 15e et le 16e siècle, le taux de survie atteignait 75 à 83
% quand même.
De plus, les trous devenaient plus fins avec les époques et certains patients ont même survécu plusieurs fois à la procédure. Le record se chiffrant à...
Je sais pas, 3,
7
4?
Trépanations.
7?
Alors tu dis, il était casse-cou le mec.
Non, mais... Qu'est-ce qui pouvait y rester sur la tête?
C'est ça, il n'y avait plus d'os. En comparaison de 46 à 56 % des patients traités de cette façon lors de la guerre civile américaine qui en mouraient. Alors, la nature des blessures était totalement différente, mais les chirurgiens responsables de l'étude affirment être impressionnés par la différence entre les taux de survie. On ne sait pas ce que les Incas faisaient de particulier, mais ces travaux montrent l'étendue de l'expertise médicale des civilisations précolombienne et en fait leurs expertises par rapport à tellement d'autres éléments. On pourra peut-être trouver des articles sur ces sujets éventuellement. Alors c'était donc un texte de Renaud Manuguerra-Gagné publié pour le site Info-Radio-Canada du vendredi 15 juin 2018.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني
Amizade até sem querer Faz com que a bondade se instale sem saber Com boa vontade vamos estender as mãos Promovendo a união pra poder melhor viver
Yeah, 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 yeah.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus
Yeah, 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 yeah.
Voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
Solidarité, d'entendre la formation Loma Mali. C'est formé de M. Toumani et Sidi Diabaté qui nous chantaient Solidarité.
Merci, Maurice.
Maurice.
Oui. Alors, Marie.
Oui, tu on est dans les M.
C'est la lecture.
Le pouvoir étonnant de la lecture, c'est l'éditorial du 8 juillet dernier, donc en fin de semaine, d'Alexandre Sirois, publié dans la Presse Plus. Et ça s'inscrivait dans un dossier sur les familles. Alors, d'où le début. Aider les familles. Et si on parlait du plaisir de lire, certains rouspéteront. N'y a-t-il pas, monsieur, des sujets autrement plus pressants à aborder pour ce qui est du sort des familles et de l'avenir de nos jeunes? D'autres feront remarquer que les mots « plaisir » et « lire » dans la même phrase, ça ne fait pas très sérieux. Et pourtant, ça l'est. C'est très sérieux, c'est même fondamental. Depuis plusieurs années, les experts le répètent et le démontrent à l'aide d'études et de rapports. La capacité à lire a un impact positif sur la réussite scolaire, de même que sur le bien-être personnel des individus, quant à leur estime de soi, leur employabilité, leur revenu, leur santé et leur engagement citoyen. Lit-on par exemple dans un rapport publié en 2015 par un groupe de professeurs de l'UQAM. Ce rapport a été publié dans le cadre du développement de la partie francophone d'une plateforme web conçu pour aider les jeunes enfants à apprendre à lire et pour donner un coup de pouce à leurs parents. Le projet, baptisé Abracadabra, a été créé à l'origine par un professeur de l'Université Concordia. La doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, Monique Brodeur, est la responsable du développement du site Web en français. Elle est persuadée non seulement que l'apprentissage de la lecture est crucial, mais aussi que l'engagement des parents est déterminant. Car pour que les familles puissent profiter du pouvoir étonnant de la lecture, il faut que tout le monde s'implique, à commencer par les parents. Faire la lecture à son enfant, c'est magique. L'écouter lire aussi, d'ailleurs. Et s'il se dit trop vieux, pourquoi ne pas l'accompagner à la bibliothèque de votre quartier et choisir quelques livres ensemble? Et ensuite, lire ensemble. Au-delà de l'implication parentale, l'école et les autres acteurs concernés de la société québécoise doivent évidemment stimuler et soutenir les efforts des familles. C'est à un véritable projet de société que tout ça devrait ressembler. Car on a beau répéter, d'année en année, à quel point la culture de la lecture est de la plus haute importance, les statistiques révèlent que le livre n'est pas encore assez valorisé au Québec. Elles démontrent qu'on lit encore moins au Québec qu'ailleurs au pays. Les statistiques.
Ouais.
Elles indiquent
c'est
aussi...
C'est un peu triste.
C'est très tout triste, tout à fait triste. Elles indiquent aussi qu'à l'intérieur de nos frontières, les francophones boudent plus souvent les livres que les anglophones. Sans surprise, lorsqu'on parle de littératie, la littératie, c'est la capacité de lire et de comprendre les textes, le Québec fait piètre figure. Il y a donc loin de la coupe aux lèvres. Et on peut présumer que les efforts faits de nos jours doivent être encore plus importants qu'auparavant. Car pour qu'un jeune daigne lire un livre, il doit résister à la tentation de s'emparer de son écran préféré pour jouer à Fortnite. Ça, c'est un jeu vidéo très populaire.
Ah oui.
Maintenant ou actuellement chez les jeunes, où on tue des bonhommes, à qui mieux.
Ouais.
Donc Fortnite. Et les autres jeux conçus pour l'attirer comme un aimant, ou pour aller voir les photos de ses amis sur Instagram avant de leur raconter sa vie sur Facebook. Ce n'est pas une bataille perdue d'avance, non. Mais entendons-nous, ce n'est pas non plus un combat facile à gagner. Il faut pourtant le mener au quotidien, avec passion. Car développer le plaisir de lire chez les jeunes aura bien sûr un impact sur la réussite scolaire, sur l'alphabétisation et par conséquent sur le développement économique de l'ensemble de notre société. Mais le pouvoir de la lecture ne s'arrête pas là. Il est encore plus extraordinaire que ça. Le livre permet aussi de, ouvrez les guillemets, déverrouiller les portes de l'imaginaire, fermez les guillemets, comme l'a écrit le romancier Daniel Pénac dans son essai consacré à la lecture, comme un roman. Ce livre, où il énumère les droits imprescriptibles du lecteur, il y en a 10, mm-hmm. a été publié au début des années 90, mais n'a pas pris une ride. Moi, j'ajoute, personnellement, que ce livre-là a été réédité l'an dernier, ici, au Québec, par la maison d'édition Sherbrookeoise 2. Fort belle édition, s'il en est une. Je reprends le texte d'Alexandre Sirois. La lecture humanise l'homme, fait-il aussi remarquer, il parle de Pénac. On est sans doute un peu plus humain, entendons par là un peu plus solidaire de l'espèce, un peu moins fauve après avoir lu Tchekhov qu'avant, écrit-il. Ce n'est pas étonnant puisqu'un livre, peu importe lequel, c'est aussi une fenêtre sur le monde, et l'ouvrir, c'est forcément élargir ses horizons et devenir par conséquent plus libre. Sérieux, donc, le plaisir de lire? Oui, au point d'en faire un projet familial dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qu'on vous souhaite pour les vacances. Voilà l'éditorial d'Alexandre Sirois, publié dans la presse le 8 juillet.
Merci beaucoup, Marie. En fait, on devrait obliger les parents à cette lecture.
Mais c'est pas un verbe qu'on peut mettre à l'impératif, ça. Lis.
Non, c'est ça.
Non, mais il va y avoir le phénomène aussi des livres audio. Ici, à vue et voix, on fait des livres audio adaptés.
Oui.
Mais il y a aussi tous les livres audio. Mais ça demande pas aux gens de lire, mais non, ça demande d'écouter.
Oui. Exactement.
Donc, on en perd un morceau quand même.
Ouais. Marie, une petite brève, justement, en lien avec ce que tu
viens de
lire.
En lien avec ça, donc, la zone parent de Abracadabra, je vous donne l'adresse Internet, http://grover.concordia.ca. Vous allez voir une vidéo d'introduction qui est faite par Marie Ekel, notre passe-partout national, et qui explique, et ensuite l'accès à 4 vidéos qui donnent des indications aux parents sur leur rôle, quoi faire avec Abracadabra, avant et après et pendant. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Alors écoutez, si le jeûne ou les mini-jeûnes vous intéressent,
Ou pas.
La condition du milieu de travail des professeurs et...
Ça nous intéresse.
Et l'Écosse... En tout cas, une aventure en Écosse. Oui. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous après la pause et la chanson qui suit.
Vous écoutez Les Voix de service.
Des bruits lointains. j'écoute en vain. Hélas, plus rien, plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai. Chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour.
C'était Ibrahim Malouf accompagné de Mélodie Gardot qui nous chantait « J'attendrai
mm-hmm. ». Deux musiciens qu'on aime beaucoup.
Oui,
oui, oui.
Ah, tout à fait.
Non, mais je voulais, avant que tu commences
oui,
sur les...
Oui, Yvan, oui, vas-y.
J'ai mangé juste un muffin puis j'ai bu du lait au chocolat. Est-ce que c'est une mini... C'est un mini-jeûne? D'après d'habitude, je mange plus.
Je ne commenterai pas.
C'est pas non. Ça le principe.
C'est pas c'est ça pas le non. Principe.
Écoute
pas
bien,
Yvan.
Oui, je vais écouter.
Oui, alors, c'est sous la plume d'Elsa Ebdoun pour la revue Science et Vie de mars-avril mai 2018.
Tu me regardes, tu peux arrêter de te décourager de moi. Je
pense. Oui, mais c'est parce que vous devez dire, mais coudonc, elle va-tu finir par finir cette revue-là? Mais il y a tellement de questions qui nous, sont révélées.
Non, non, au contraire, au contraire.
Oui. Alors, ça s'intitule « Mini-jeûne, une panacée à la portée de tous ?» C'est donc une question. Alors, l'idée est séduisante. Il suffirait de réduire ses portions alimentaires quelques jours par mois pour jouir de toute une gamme de bénéfices et gagner des années de vie en bonne santé. Mieux, ces mini-jeûnes sont des stratégies à portée de tous. Difficile à avaler? Voilà pourtant... Oui, c'est ça.
Je suis jaloux de ne pas l'avoir dit.
Voilà pourtant près d'un siècle que l'on connaît certains effets positifs du jeûne. Mais seulement quand il est pratiqué de façon radicale. Alors, on passe bien sûr par les animaux de laboratoire qui sont alimentés tout au long de leur vie adulte avec des rations réduites d'un tiers ou privées de nourriture un jour sur deux jusqu'à leur mort. Alors, on se rend compte qu'ils affichent une santé impressionnante. Certains vont jusqu'à gagner 30 % d'espérance de vie et la plupart sont protégés contre de nombreuses maladies telles Alzheimer, diabète, cancer. Des expériences, par ailleurs, confirmées chez l'humain. À noter que ce n'est pas uniquement la perte de kilos en trop ou la fin des excès qui sont en jeu ici. Les privations extrêmes mettent en branle des mécanismes biologiques bien spécifiques et très bénéfiques. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. À commencer par le phénomène d'hormèse. Alors, qu'est-ce que c'est l'hormèse? C'est quand l'organisme est affamé, il déclenche un stress physiologique activant des systèmes de défense tels que la production de molécules antioxydantes. On sait que c'est très bon pour la santé, ça, hein? Mmh. Et connu pour ralentir le vieillissement et des phénomènes d'autophagie, où les cellules digèrent leurs propres déchets moléculaires. Et ça ne s'arrête pas là. La restriction alimentaire entraîne une baisse de l'inflammation qui détériore les tissus avec le temps et pousse le corps, privé de glucides, à puiser de l'énergie dans ses réserves de graisse. Les lipides sont ainsi transformés par le foie en corps cétonique, ce sont des molécules bénéfiques pour les cellules gourmandes en énergie. Alors, pour vous, chers amis qui faites beaucoup de bicyclette, pour les neurones, mais aussi pour les muscles. Une telle multiplicité d'effets positifs n'a rien de surprenant pour M. Mattson, qui est du laboratoire de neurosciences à l'Institut national de vieillissement de Bethesda aux États-Unis. Alors, il nous dit, « Durant la plus grande partie de son histoire évolutive, notre espèce a été confrontée à d'importantes restrictions alimentaires. L'organisme humain est donc plus adapté à ce mode de fonctionnement qu'à celui, très récent, consistant à manger 3 repas tous les jours. Soit, mais pas sûr que ceux qui peuvent aujourd'hui manger à leur faim soient désireux de renoncer à ce confort, à son petit muffin et à son petit lait au chocolat.
N'est-ce pas?
Manger 5 fruits et légumes par jour reste déjà un défi pour beaucoup. Alors, s'imposer volontairement de jeûner 1 jour sur 2...
En fait, moi, mon jeûne, c'est vraiment sur les portions de fruits et légumes.
D'accord. Bon, les scientifiques ont déjà testé des stratégies plus réalistes, découvrant qu'il n'est pas nécessaire de torturer sans arrêt son estomac pour régénérer son organisme.
J'ai commencé à aimer ça.
En 2011, des chercheurs anglais ont élaboré une méthode aujourd'hui très prisée des magazines féminins. Le régime 5 sur 2. Un quasi-jeûne, soit une restriction calorifique intense de 2 jours par semaine seulement, divisant les apports énergétiques journaliers par 3 ou 4. Alors, testé pendant 6 mois sur 41 femmes obèses ou en surpoids, ce régime les a, sans surprise, fait maigrir, améliorant leur état de santé. Elles produisaient aussi davantage de corps cétoniques et moins de marqueurs de stress oxydants et, par conséquent, d'inflammation, soit les mêmes phénomènes bénéfiques observés lors de privations externes. Une méthode concurrente a également donné des preuves de son efficacité en 2015. Alors, pendant 3 mois, 19 volontaires se sont contentés, 5 jours consécutifs par mois, de la moitié des apports calorifiques recommandés le premier jour, puis seulement du tiers les 4 suivants. Résultat, même changement bénéfique dans les paramètres sanguins. Et chez les souris, on observait une longévité accrue de 11%, un risque de développer des tumeurs diminué de 45%, un système immunitaire rajeuni et une densité osseuse préservée. L'explication? Elle viendrait d'un phénomène entièrement nouveau, un véritable renouvellement cellulaire avec une disparition très importante de cellules des muscles, du foie et du système immunitaire qui, à la reprise d'une alimentation normales sont repeuplées à grande vitesse par cellules souches. Donc, on interrompt, ça fait que tout ralentit, et puis quand on reprend, on repart en neuf. Une troisième stratégie attire par son incroyable simplicité. C'est pour toi, ça, Yvan. Elle consiste à jeûner la nuit.
Ah oui, ça c'est bon, ça.
Soit à espacer de 12 à 16 heures. Et la dernière prise alimentaire d'une journée et le premier repas de la suivante. Donc, quitte à sauter le souper et ou le petit déjeuner, même limité à 5 jours par semaine, cette méthode chez la souris fait prendre moins de poids, améliore l'endurance physique et diminue le cholestérol et le risque de diabète. En revanche, ces effets anti-âge attendent encore confirmation et dépendent sans doute de la durée de la restriction. Donc, il faut continuer les recherches. Les bénéfices du jeûne pourraient donc être enfin à la portée des estomacs avides. Mais qu'en est-il des risques? Le jeûne étant pratiqué depuis des milliers d'années, les chercheurs considèrent ces mini-jeûnes suffisamment sûrs pour les pratiquer eux-mêmes. Mais en attendant que les essais cliniques confirment leurs bénéfices, mieux vaut cependant les adopter sous la supervision d'un médecin et dans le cadre d'une alimentation équilibrée, fruits et légumes, et d'une activité physique régulière. Alors voilà, chers amis, c'était un article d'Elsa Hebdoun de la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018.
Ouais. Tu sais d'ailleurs que le mot « déjeuner », c'est « déjeuner ».
Oui, c'est ça.
Sortir du jeûne.
C'est sortir du jeûne. Alors voilà. Alors, nous sommes prêts à reprendre, Marie. Et là, bon, c'est un peu triste, l'article que tu... Oh, en fait, c'est un ouais. peu...
C'est un peu
dommage.
Sombre. Oui, c'est un peu sombre, mais bon.
Et dommage. Surtout.
C'est une recherche.
Oui.
Donc, le titre, c'est une question aussi. Des milieux de travail toxiques. Une étude lève le voile sur les causes de la souffrance enseignante dans les écoles du Québec. C'est un texte de Pierre-Étienne Caza, publié sur le site Actualité UQAM, UQAM pour Université du Québec à Montréal, le 21 juin. Les enseignants sont épuisés et nombreux à abandonner la profession, rapportent à intervalles réguliers les médias québécois. On attribue habituellement cette situation à la surcharge de travail occasionnée, entre autres, par l'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières. La souffrance enseignante n'est pas qu'un phénomène lié à la charge de travail. C'est beaucoup plus complexe que cela, affirme la professeure du département d'éducation et de pédagogie, Ariane Robichaud. La chercheuse mène une étude qui donne la parole à une vingtaine d'enseignants du primaire et du secondaire de la grande région montréalaise qui ont accepté de témoigner de leur réalité quotidienne et de leur rapport aux institutions telles que la direction de leur établissement, la commission scolaire et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le MELS. Ariane Robichaud et son équipe, on parle de 2 doctorants et de 4 candidats à la maîtrise, ont procédé l'été dernier à une première ronde d'entrevues semi-dirigées au cours desquelles les enseignants, 14 femmes et 6 hommes, dont l'âge moyen était de 34 ans, ont fait état de symptômes qui concordent avec ceux relevés dans d'autres études. L'anxiété, le stress élevé, des problèmes de sommeil, un sentiment de malaise au travail et de la dépression. Le quart des enseignants de notre échantillon ont reçu un diagnostic de dépression depuis le début de leur carrière, précise-t-elle. Le discours social dominant, rappelle la chercheuse, met de la pression sur l'individu pour qu'il performe au travail et, ce faisant, lui impute l'entière responsabilité de ses problèmes. « Tu n'es pas assez fort pour ce rythme de travail, tu n'es pas fait pour ce travail, tu n'as pas la vocation. » C'est une culture individualiste de la performance qui me dérange, comme sociologue, c'est Mme Robichaud qui parle, car il y a forcément des impacts structuraux qui influencent la souffrance enseignante. Son équipe n'est pas la première à s'attarder à l'épuisement professionnel et à la souffrance enseignante, reconnaît-elle. Mais donner la parole aux enseignants afin qu'ils décrivent leur rapport avec les institutions qui encadrent leur travail n'avait pas été fait. Les résultats préliminaires, prévient-elle, risquent de heurter certaines sensibilités. Les nôtres, à tout le moins.
Vraiment.
Oui, les témoignages recueillis ont permis de relever 3 problèmes ou sentiments répandus chez les enseignants. Le premier est une impression d'inutilité et d'impuissance au travail liée à un manque d'autonomie. Après leurs études, les nouveaux enseignants ont des idéaux, une philosophie de l'enseignement qu'ils souhaitent mettre en pratique, explique la professeure. Ils sont motivés, mais ils expérimentent rapidement le choc de la réalité. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les ressources ni les moyens pour aider leurs élèves comme ils le voudraient et ils ne sentent pas qu'ils peuvent actualiser leur plein potentiel. Résultat, ils se sentent impuissants et incompétents face à leur charge de travail. Le manque de ressources n'est pas le seul facteur. 65% des enseignants interrogés affirment qu'ils ont un degré de liberté pédagogique moyen, faible ou très faible. Ils n'ont même pas l'impression d'avoir le contrôle sur ce qui se passe dans leur classe et ils se sentent jugés et surveillés par la direction de leur établissement, déplore la chercheuse. Par exemple, la direction va renverser leur décision quand ils interviennent auprès d'un élève. Et paradoxalement, les élèves sont rarement la source du problème, tient à souligner la chercheuse. La relation que développent les enseignants avec les élèves les motive à poursuivre leur travail et constitue plutôt un facteur de protection. Tous les milieux de travail peuvent générer des conflits interpersonnels et l'école n'y fait pas exception. Sauf qu'on ne parle pas uniquement de légers désaccords, précise Mme Robichaud, mais de harcèlement psychologique, de la part de collègues ou de la direction de l'établissement, pourtant censé offrir un cadre de travail harmonieux. L'école devrait être un milieu sain, un milieu d'acceptation et d'intégration sociale où l'on forme nos enfants. Personne ne veut entendre que c'est parfois un milieu hautement toxique pour ceux qui y travaillent, et c'est pourtant le cas, même si c'est tabou d'en parler, juge Mme Robichaud. La relation avec les parents peut aussi être conflictuelle, surtout lorsque ces derniers se perçoivent comme les clients de l'école et voient les enseignants comme des pourvoyeurs de services. On se donne le droit de juger l'enseignant, de lui dire quoi faire et comment le faire, et rarement de manière diplomate, indique la chercheuse, qui précise toutefois que les parents ne sont pas la plus grande source de conflits menant à la souffrance enseignante. Les problèmes proviennent principalement de la dynamique à l'intérieur de l'école, insiste-t-elle. Les enseignants souffrent également d'un manque de reconnaissance. La totalité de ceux que Ariane Robichaud a interrogés affirment être moyennement, faiblement, très faiblement ou nullement satisfaits de leur rapport au MELS, notamment en raison de leurs conditions de travail. Le constat est sensiblement le même par rapport à leur commission scolaire, ajoute la chercheuse. Les enseignants ont l'impression d'être un numéro, rien de plus. C'est le propre de toute bureaucratie. Le contact humain se perd à travers la paperasse et les exigences administratives. Il faut toutefois prendre conscience que ce manque d'humanité peut causer de la souffrance, laquelle nuit au système scolaire québécois. Les jeunes qui débutent dans le métier sont particulièrement amers envers leur commission scolaire, poursuit-elle. Ils doivent courir les contrats, ils n'ont pas été préparés pour comprendre les règles d'embauche et les règles syndicales, et on les traite de manière cavalière, observe la professeure. Il faudrait peut-être songer à mieux les préparer lorsqu'ils sont encore à l'université. Alors, on espère beaucoup de cette recherche. En tout cas, on espère que ça change.
Ben, en tout cas, on souhaite bonnes vacances aux enseignants oui, de
parce
reprendre...
qu'ils les méritent bien.
Oui, faire le plein d'énergie dans
alors, je rappelle, c'est un texte de Pierre-Étienne Cazat, publié sur le site Actualité UQAM le 21 juin dernier.
Merci, Marie. Alors, Yvan, on parle d'expérience, en fait, d'un professeur tout à fait...
On reste à l'école.
On reste à l'école, tout à
mais
fait
c'est plus encourageant.
Motivé, motivant, en toute simplicité, je crois.
Oui, puis c'est une expérience qui pourrait s'élargir.
Ah, totalement. S'appliquer ici,
oui,
de
oui.
ce côté-ci
dans
de l'océan.
Dans tous les domaines. Oui, oui, puis pas juste, oui. C'est pas juste culturel Europe versus Amérique. C'est école, c'est entreprise, c'est à la maison. C'est voilà. Toutes sortes de choses. Alors, c'est dans mes fameux carnets d'endorphines, leçons de simplicité volontaire par des écoliers écossais. Sous la plume, évidemment, de Geneviève Lefebvre, dans la presse du 11 juillet 2018. Alors, je vous raconte une histoire. Il était une fois une fille qui enseignait à des enfants du primaire, tu connais ça, Marie? Dans une petite école de Stirling, en Écosse. Comme l'ensemble des professeurs de la planète, Elaine Wiley gérait son lot de turbulences autant que la transmission de son savoir académique. On dirait que je fais la suite de ton, de ton article. Un jour, une bénévole de l'école a suggéré à Elaine que ses jeunes élèves manquaient peut-être de concentration parce qu'ils n'étaient pas en forme. Là, je m'enlève un chat de la gorge. Curieuse et un peu piquée au vif, Elaine a fait descendre les enfants sur le terrain de soccer et leur a demandé de faire le tour en courant. Avant la fin du premier tour, la plupart des enfants s'étaient arrêtés, pliés en deux, à bout de souffle. Elaine a demandé à ses petits élèves d'évaluer leur condition physique. Ils ont répondu en chœur « Mauvaise ».
Ils doivent manger trop de muffins.
On leur fera un plan. Ensemble, ils ont établi justement un plan. Beau temps, mauvais temps. Sans objectif de performance, et chacun à son rythme, ils allaient courir 15 minutes par jour. Tous les jours, soit à peu près 1 mile, ou en anglais, 1 mile. Ce ne serait pas un cours de plus. Il n'y aurait pas d'équipement, pas de règlement, pas de notes, pas de comité, pas d'organisation, pas d'évaluation, juste des enfants qui sortent de classe 15 minutes par jour pour s'épivarder, courir, prendre l'air. Un mois plus tard, tous les enfants couraient leur mille ou leur mile sans devoir s'arrêter pour reprendre leur souffle. Ainsi est né le Daily Mile, le mille du jour ou le mille quotidien, dont les bénéfices ont été si nombreux. Et oui, une meilleure concentration en classe fait partie des avantages que sa pratique a fait boule de neige et qu'elle a depuis été adoptée par la moitié des écoles d'Écosse et le quart des écoles britanniques. L'immense réussite de l'idée d'Elaine Wiley réside dans un seul facteur, sa simplicité. Simplicité dont on peut s'inspirer sans vergogne. Qu'on veuille se remettre en forme tout seul ou partir un projet semblable avec la gang du bureau, on a plein d'enseignements à tirer de cette petite école d'Écosse. Récapitulons les éléments qui ont fait de leur Daily Mile une réussite. Premièrement, le libre arbitre. Personne n'a fait de sermon aux enfants. Personne ne leur a imposé de faire plus de sport. On leur a demandé de s'évaluer et ils se sont sentis investis d'une mission, faire mieux.
Alors ici, c'est une note ici pour les cubes énergie. Fermons la parenthèse.
OK, on pourra en reparler. C'est devenu leur projet et c'est toute la différence du monde. Deuxièmement, ce n'est pas un cours. Il n'y a pas de notes, pas d'évaluation, pas d'obligation de résultat ni de but à compter pour faire gagner son équipe. C'est fou comme ça change une perspective sur le sport.
Oui, tout à fait.
Troisièmement, ça ne coûte rien. La belle Elaine n'a pas demandé un sou à la direction de l'école. Comment? Un projet gagnant qui ne nous oblige pas à débloquer un budget? Ah ben là, avouez que c'est irrésistible. On peut tous mettre un pied devant l'autre, gratuitement, au moins une fois par jour. Quatrièmement, il n'y a rien à défendre. La colonne des contres est vide. Il n'y a que des bénéfices. Voilà une résolution qui sera adoptée à l'unanimité par n'importe quel conseil d'administration sensé. 5. Une organisation minimale. Si je rejoins ma collègue au coin de la rue le midi pour notre marche quotidienne, on gage que j'y serai plus assidu qu'à ce cours de cardio machin à l'autre bout de la ville après le travail?
Peut-être.
6. C'est une récréation, un moment de détente, une occasion de socialiser, de voir les copains, de rire. Retrouver des gens qu'on aime autour d'un verre, c'est agréable. Retrouver des gens qu'on aime au grand air et en mouvement, ça n'a pas de prix. 7. Ça se place tout seul à l'horaire. On peut tous trouver 15 minutes dans une journée pour s'aérer l'esprit, se dégourdir les jambes, s'activer le cœur, se rosir les joues et retourner à notre table de travail plus inspiré, plus motivé et les neurones oxygénés de frais. Ces gamins écossais nous rappellent un principe essentiel. L'envergure n'est pas une question de moyens et une toute petite habitude peut générer de grands bénéfices. C'était donc la leçon de simplicité volontaire par des écoliers écossais présentée par Geneviève Lefebvre dans la presse du 11 juillet 2018. Et mes amis, tout de suite après l'émission, on s'en va faire le tour du bloc.
Bon, déjà, vous avez de la difficulté à monter les escaliers. Fait que là... est-ce que tu n'as pas une petite brève qui pourrait s'enchaîner avec cela?
Oui, si tu me... Oui. Alors, c'est le demi-marathon Bonneville à la Chine qui va avoir lieu le 19 août. Cette année marquera le 6e demi-marathon au profit de la Société Alzheimer de Montréal qui offre divers programmes pour aider les personnes atteintes de la maladie ainsi que les proches aidants, les familles et les amis. L'événement s'adresse aux coureurs de tous les niveaux, des parcours de 1, 2, 5, 10 et 21,1 km sont proposés. Donc, il y a le Daily Mile là-dedans. Là, là. Ils prennent tous place sur les magnifiques rives du lac Saint-Louis, c'est superbement beau, et les berges du fleuve Saint-Laurent. Des prix seront remis aux personnes qui terminent dans les trois premières positions de chaque catégorie. Moi, je donnerai des prix à tous ceux qui terminent.
Qui participent.
Oui, c'est ça. Une zone avec des jeux gonflables sera aménagée pour les plus petits. Et la date limite pour les inscriptions, c'est le 12 août. Alors, on a un mois là, pour y penser.
Peut-être un petit mot d'enfant, Marie?
Un petit mot d'enfant, bien sûr. Alors, une autobiographie selon Titouan, 6 ans et demi, c'est l'histoire de la vie de la voiture de papa.
Oh là 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 là! Alors, je pense que c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe d'avoir choisi des articles aussi intéressants. Merci Marie, merci Yvan. Merci Maurice pour le choix musical et le contrôle de la régie et du temps. M pour Maurice, c'est ça. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Nous espérons que vous serez à l'écoute la semaine prochaine et bien sûr pour l'émission qui suit.